France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et voici le premier d'une série de rendez-vous qui nous mèneront jusqu'à l'élection présidentielle. France Inter, en partenariat avec Ipsos Soprasteria, vous proposera des sondages thématiques pour mettre quelques chiffres sur les attentes, l'état d'esprit de la population avant le principal rendez-vous de notre vie politique. Le premier, c'est donc aujourd'hui autour de la jeunesse. 01 45 24 7000, l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos questions. Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour Bruno Duvic.
Directeur général délégué d'Ipsos. D'abord disons de quoi on parle, d'un échantillon représentatif de 500 personnes âgées 18-29 ans. C'est donc la jeunesse en âge de voter, la toute fin des années lycées, les études, la première vie professionnelle ou du chômage. Hein. C'est de ces jeunes-là qu'on parle.
Oui, tout à fait. Il peut y avoir plusieurs définitions de la jeunesse. Ouais. On peut dire les 18-24 ans ou les 18-29 ans. Là, nous avons travaillé sur la base d'un échantillon représentatif de 18-29 ans.
Et le sondage a été réalisé entre le 24 et le 28 septembre. Alors ces jeunes, 18-29 ans que vous avez interrogés, est-ce qu'ils ont, Brice Teinturier, des préoccupations très différentes du reste de la population ?
Oui, tout à fait. Et c'est un point notable, je crois, de l'étude. La première préoccupation de cette jeunesse, c'est tout simplement les difficultés en termes de pouvoir d'achat. Mmh. C'est ça qui est le plus marquant pour elle, ce que nous n'avons pas du tout auprès du grand public. D'une manière générale, les enjeux régaliens, sécurité, immigration, terrorisme sont très en retrait. Mmh. Et il y a deux préoccupations majeures dans la jeunesse. Les difficultés donc en termes de pouvoir d'achat, mais également la protection de l'environnement, qui est véritablement un élément très important pour eux. Alors ça, c'est aussi vrai du grand public, mais pas dans les mêmes proportions.
C'est ça, fracture la plus importante dans la société, selon eux, la fracture sociale, ce qui recoupe ce que vous dites, mais vient tout de suite derrière la fracture identitaire, qui est un sujet de préoccupation en termes de fracture tout de même.
Oui, et ce qu'il faut, je crois, également remarquer, c'est que les fractures sociales, au sens de les fractures en termes de niveau de revenu, de niveau de patrimoine, c'est donc ça qui, aux yeux des jeunes, constitue la principale fracture. Et tout en bas du tableau, on avait listé beaucoup de fractures possibles, vous avez la fracture générationnelle.
Oui.
Et je crois que c'est important de bien mesurer que il y a les deux premières fractures, vous avez rappelé aussi les fractures identitaires en termes de religion ou d'origine, qui apparaissent comme très importantes aux yeux des jeunes. Mais finalement, ils ne sont pas du tout dans l'idée qu'il y aurait une fracture générationnelle, que c'est ça qui serait au cœur des problématiques du pays, qu'il y aurait donc les plus âgés, les plus jeunes, etc. Et puis d'abord, il n'y a pas une jeunesse, il y a, et on le voit dans toute l'enquête, véritablement des jeunesses. Mais ils ne mettent pas en avant l'idée d'une fracture générationnelle, beaucoup plus l'idée de fracture sociale.
Parce qu'ils ne se vivent pas eux-mêmes comme une génération en tant que telle, en quelque sorte.
Oui, comme un groupe en tous les cas homogène. Voilà. Vous avez raison de le souligner, je crois que c'est également très important. Vous en avez plus des deux tiers qui nous disent que non, la jeunesse, elle est très divers, à la fois dans ses valeurs, et un petit tiers qui met l'aspect générationnel ou jeunesse au-dessus de tout le reste. Mmh. Et effectivement, ils ont raison ces jeunes, parce que quand vous regardez aussi leurs réponses à toutes les questions que nous avons posées, vous voyez à quel point la jeunesse est plurielle, suivant que vous habitez dans une grande métropole, que vous êtes ou pas bien diplômé, ou à la recherche d'un emploi, ou dans le périurbain, votre vision de l'avenir et vos préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc il y a bien des jeunesses.
On va détailler cela. Je voudrais qu'on entende Véronique au standard de France Inter. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour à tous.
Alors vous êtes mère d'un jeune homme de 28 ans.
Voilà, absolument.
Qui a peur de l'avenir, c'est ça l'idée ?
Qui a peur de l'avenir, oui. Alors il fait partie de ces jeunes qui ont un boulot.
Oui.
Qui est diplômé du supérieur, mais qui malgré tout se dit waouh, l'avenir devant moi, il est vraiment très sombre. L'épisode du Covid l'a profondément marqué en termes de privation de liberté, donc il se demande ce qui va arriver plus tard. Il se rend compte que nous, les aînés, on n'a pas forcément conscience de l'état dans lequel ils sont. Même si on est très proche d'eux, moi je suis un peu tombée de ma chaise quand j'ai entendu mon fils me dire très clairement, pas plus tard qu'hier, ses craintes face à l'avenir. Donc
et peur voilà. En termes écologiques aussi.
Il fait confiance, à la technologie et au savoir humain pour
affronter cette réalité-là.
Voilà. Merci. C'est moins ta préoccupation-là qu'un pays où les libertés seraient moindres que celles qu'on a pu connaître, nous.
Merci Véronique pour votre témoignage. Ça appelle deux remarques, Brice Teinturier. D'abord, ce qui apparaît dans cette étude, c'est que ces jeunes 18-29 ans sont vécus quand même comme une génération sacrifiée sous le Covid.
Alors, ils ont eu le sentiment, effectivement, que la jeunesse était la catégorie de la population qui avait été le moins prise en compte par le gouvernement. Mais génération sacrifiée, pas tout à fait.
C'est un terme trop fort.
C'est un terme trop fort. Ils le réfutent dans d'autres enquêtes que nous avons conduites, notamment en explorant cette dimension-là. Ils avaient plutôt tendance à dire non, nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Une génération, en revanche, qui a souffert du Covid et de la pandémie, oui, incontestablement. Et ce sont quand même des individus qui sont plus optimistes, il faut le rappeler, que l'ensemble de la population. Donc, le fils de notre auditrice Véronique est un petit peu atypique. Ouais. 74% sont quand même plutôt optimistes pour eux-mêmes. En revanche, il y en a 31%, et c'est pas négligeable, qui pensent qu'ils vivront moins bien que leurs parents.
Et là, il y a une vraie fracture entre, d'un côté, des jeunes urbanisés, diplômés, plutôt électeurs d'Emmanuel Macron, et une jeunesse plus rurale, moins diplômée, plutôt électeur, électrice du Rassemblement National.
Absolument, et de ce point de vue, la jeunesse, elle est pour le coup à l'image du pays. Vous avez bien des attitudes très très différentes, suivant que vous êtes un sympathisant de la REM ou un sympathisant du Rassemblement National, avec tout ce qui va derrière, en termes de lieu d'habitat, de niveau de diplôme, de rapport à l'avenir. Il y a à minima ces deux jeunesses-là. Une jeunesse beaucoup plus inquiète, beaucoup plus précaire, beaucoup plus dans le périurbain souvent ou dans le rural et qui voit l'avenir avec angoisse. Et puis une jeunesse qui s'estime beaucoup mieux lotie parce qu'elle est mieux formée, diplômée, issue de catégories sociales aussi beaucoup plus élevées. Et celle-là, évidemment, qui se sent plus proche de La République En Marche, se projette dans l'avenir sur un mode beaucoup plus positif.
Nous en sommes restés au très fort taux d'abstention des départementales et des régionales. Un point important de cette étude, c'est que manifestement, pour la présidentielle, les personnes que vous avez interrogées ont une forte intention d'aller voter.
Ils sont 59% aujourd'hui à nous dire qu'ils voteraient certainement. Donc ce n'est quand même pas si énorme que cela. Mais si vous y ajoutez ceux qui voteraient probablement, mais c'est là où il faut faire attention, à ce moment-là, oui, on a une jeunesse en tous les cas.
On arrive à 87%.
Oui, et ils ne disent absolument pas qu'ils ne sont pas intéressés par l'élection présidentielle. On en a même 64% qui nous disent qu'ils attendent beaucoup l'élection présidentielle. Mais ensuite, le processus de transformation de cet intérêt en vote effectif, il est malgré tout encore à faire. On l'a vu au régional, mais pas seulement en régional. Oui. Dans toutes les élections, les écarts de participation entre les plus âgés et les plus jeunes sont souvent colossaux, de 30 points environ. Donc c'est un vrai enjeu que de parvenir à réintéresser la jeunesse de ce pays au processus électoral classique.
Autre thématique, capacité des différents candidats à répondre aux attentes de la jeunesse, c'est noté sur 10. Alors petit 1, il n'y en a pas un qui a la moyenne.
Exactement.
Emmanuel Macron en tête, 4,2. Devant Jean-Luc Mélenchon et Xavier Bertrand, 3,9. Yannick Jadot et Marine Le Pen à 3,8. Quels commentaires ça vous inspire ?
Eh bien, le premier que vous avez fait spontanément, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des notes qui sont assez basses. Un peu là aussi à l'image de l'ensemble des Français. Hein, quand on les interroge sur l'image des candidats, ce n'est pas très brillant comme appréciation, comme copie. Alors, il faut le nuancer quand on regarde les sympathisants LAREM, qu'est-ce qu'ils nous disent d'Emmanuel Macron, ou les sympathisants écologistes, qu'est-ce qu'ils nous disent de Yannick Jadot. À ce moment-là, les notes sont quand même meilleures. Mais la remarque que je voudrais faire, c'est qu'on voit bien la diversité de cette jeunesse. Ceux dont ils pensent qu'ils sont crédibles pour prendre en compte leurs aspirations, eh bien, ça va de Mélenchon à Marine Le Pen en passant par Jadot. Donc on a vraiment un spectre extrêmement large qui est le reflet, encore une fois, de la diversité des jeunes de France.
Et comment analysez-vous cette petite prime tout de même à Emmanuel Macron ? Pourquoi ce relatif succès vis-à-vis de la jeunesse par rapport aux autres ?
Pour deux raisons principales. D'abord, en termes de posture, de relation avec les jeunes, il va davantage que d'autres responsables politiques sur des réseaux sociaux. On a eu plusieurs interviews qui ont été faites et puis également Carlito
et McFly,
qui est à l'Élysée. Donc il y a aussi une jeunesse du candidat par rapport aux autres candidats qui intervient. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également des mesures, tout simplement, qui ont été prises par ce gouvernement et que les jeunes ont bien remarqué. Et du coup,
lesquelles?
Les mesures concrètes, des mesures tout au long de la pandémie pour les aider financièrement. Et c'est un certain nombre de points qui a quand même marqué. Donc il n'y a pas que de la posture ou de la communication au sens de la capacité à entrer en relation sur un mode sympathique ou empathique, il y a aussi des éléments un peu de fond qui fait que des jeunes très pragmatiques se disent il agit et il a pris un certain nombre de mesures qui nous étaient quand même utiles.
Est-ce que ça se traduit en intention de vote ? Alors cette étude n'est pas une étude d'intention de vote, mais vous en menez parallèlement. Il y en a une qui est sortie le week-end dernier auprès des jeunes en termes d'intention de vote. Où en est-on, Brice Teinturier ?
Alors là, il faut vraiment distinguer les 18-24 ans, par exemple, et la tranche d'âge suivante, parce qu'elles ne votent pas du tout de la même façon. Les plus jeunes sont effectivement attirés par Emmanuel Macron. Encore faudrait-il qu'ils aillent voter le jour venu. Hein, je réinsiste bien sur ce point. Et puis les autres candidats qui ont leur faveur, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Yannick Jadot, c'est plutôt ce tropisme-là. Et les 25-30 ans, on va dire, sont eux, par exemple, beaucoup plus attirés par Marine Le Pen. Et là, vous avez une jeunesse qui éprouve un certain nombre de difficultés, qui se sent en situation de précarité, qui arrive sur le marché du travail, qui a des difficultés spécifiques en termes de pouvoir d'achat. Rappelons que c'est leur première préoccupation, hein, aux jeunes, le pouvoir d'achat.
Oui.
Et ils peuvent être attirés également par Marine Le Pen. Donc on a véritablement des attitudes politiques qui peuvent être extrêmement différentes.
Et une fracture entre les très jeunes, appelons-les comme ça, et les un petit peu moins jeunes.
Exactement.
Ce que je note à la rubrique capacité des différents candidats à répondre aux attentes de la jeunesse, vous testez Éric Zemmour, qui arrive en dernière position, avec une note de 2,6. Il ne marche pas, si j'ose dire, auprès des jeunes, Éric Zemmour?
Non, il ne marche pas pour beaucoup de raisons. D'abord, les sujets dont il parle ne sont pas les sujets de préoccupation des jeunes. Encore une fois, les sujets tels que l'immigration ou le terrorisme, etc., sont en bas du tableau des préoccupations des jeunes. C'est beaucoup plus le pouvoir d'achat, les fractures sociales, les enjeux d'avenir autour des thèmes économiques et sociaux. Donc il y a là un décalage extrêmement important. Et puis, pour les jeunes, Éric Zemmour, c'est quand même quelqu'un du système. C'est un journaliste avant tout. Donc, indépendamment aussi de son positionnement politique, il n'y a pas de proximité spontanée entre Éric Zemmour et les jeunes. Il y en a davantage, encore une fois, du côté de Marine Le Pen et une partie de cette jeunesse.
Et d'ailleurs, pour avoir cela en tête et pour comparer avec ce que vous venez de nous dire, en 2017, quel candidat au pluriel avait obtenu les meilleurs suffrages auprès de la jeunesse, le plus de suffrages?
Ah, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait fait vraiment un joli carton auprès des jeunes, qui avait su non seulement les remettre dans le bain de la campagne présidentielle et faire en sorte qu'ils votent. Et du coup, je crois qu'il a joué un rôle là particulièrement important. Et puis, il avait capté bon nombre de suffrages, donc de la part de la jeunesse. Ensuite, il y avait Marine Le Pen également, mais sur des gens un petit peu plus âgés.
Et Emmanuel Macron.
Et puis Emmanuel Macron aussi.
Les jeunes et la présidentielle, ce sera aussi le thème du Téléphone Sonne ce soir à partir de 19h20 chez Fabienne Sintès. Merci Brice Teinturier d'être venu dans les studios de France Inter, et on retrouve les détails de cette étude sur franceinter.fr. 13h43.